Comment, avec l'avènement du capitalisme, le travail a fini par être majoritairement regardé comme un instrument de réforme sociale, voire une vertu en soi, et comment les travailleurs ont riposté en adoptant la théorie de la valeur travail. L'histoire des différentes significations du travail reste à écrire. C. Wright Mills, Les Cols Blancs, 1951. L'avènement du capitalisme est venu tout bouleverser. Par « avènement du capitalisme », je n'entends pas l'apparition des marchés, ils existaient depuis longtemps, mais la mutation progressive de relations de service en relations de travail permanentes prenant la forme du salariat, ce qui peut se résumer par le schéma suivant : certains individus détiennent le capital et tous les autres sont contraints de travailler pour eux. Sur le plan humain, la première conséquence de cette évolution a été d'enfermer des millions de jeunes gens dans un état d'adolescence sociale éternelle. En effet, avec la désintégration des structures corporatives, les apprentis devenus compagnons se sont vus empêchés d'accéder au statut de maître. Au regard de la tradition, cela signifiait qu'ils n'étaient pas en position de se marier et de fonder une famille, et qu'ils se retrouvaient condamnés à demeurer pour le restant de leurs jours des êtres humains inachevés au sens propre du terme. Comme on pouvait le prévoir, beaucoup d'entre eux ont décidé de se rebeller et de refuser cette interminable attente. Ils ont commencé à abandonner leur maître avant l'heure dite pour se marier et établir de petites entreprises familiales. En retour, ce mouvement a suscité dans la classe émergente des employeurs une vague de panique morale qui n'est pas sans rappeler celle provoquée plus tard par le phénomène des grossesses précoces. Le passage qui suit est extrait de The Anatomy of Abuses, écrit au XVIe siècle par le puritain Philip Stubbs. Puis, vous avez ces polissons de 10, 14, 16 ou 20 ans qui prennent femme et l'épousent sans aucune crainte du châtiment divin, ou, ce qui est pire, sans se soucier des moyens de subsistance dont ils disposeront, ni de savoir si leurs ressources seront suffisantes pour les maintenir dans leur métier et sauvegarder leurs biens. Oh non ! Cela n'a aucune importance à leurs yeux, tant qu'ils ont leur joli petit chaton à câliner, car c'est bien la seule chose qu'ils désirent. Bientôt, les voilà qui construisent à chaque bout de chemin des maisonnettes avec des poteaux en sureau, dans lesquels ils vivent comme des gueux le reste de leur existence. Le pays s'emplit ainsi d'un tel amas de mendiants que, sous peu, on risque de le voir sombrer dans la pauvreté extrême et la pénurie. C'est de là qu'on peut dater la naissance du prolétariat en tant que classe. D'ailleurs, fort opportunément, le terme dérive d'un mot latin désignant ceux qui n'avaient pour toute richesse que leur progéniture. En effet, à Rome, les citoyens les plus démunis, trop pauvres pour être soumis à l'impôt, n'étaient utiles au gouvernement que dans la mesure où ils engendraient des fils susceptibles d'être enrôlés dans l'armée. À bien des égards, The Anatomy of Abuses est le manifeste même de la « réforme puritaine des mœurs », comme on l'a nommée. Celle-ci reposait sur une vision bourgeoise de la société dénonçant pareillement la sensualité de la vie de cour et l'agitation païenne que représentait le divertissement populaire. Ce texte nous rappelle aussi que l'on ne saurait comprendre les débats autour du puritanisme, de l'éthique protestante du travail et de ses origines sans embrasser le contexte plus large dans lequel ils s'inscrivent, celui du déclin du life cycle service et de l'émergence d'un prolétariat. Les calvinistes anglais, en réalité seuls leurs détracteurs les appelaient puritains, se recrutaient en majorité au sein de la classe des maîtres artisans et des paysans en voie d'enrichissement, celle-là même qui employait le nouveau prolétariat. Leur réforme des mœurs visait les fêtes populaires, le jeu, la boisson et l'ensemble de ces rites annuels anarchiques au cours desquels la jeunesse inversait provisoirement l'ordre social. L'idéal puritain était de rassembler tous ces hommes sans maître et de les placer dans des familles pieuses dont les chefs leur inculqueraient une discipline stricte en matière de travail et de prière. Cela n'a été que la première d'une longue série de tentatives en vue de réformer les mœurs des classes inférieures. S'ensuivraient les hospices victoriens où l'on apprendrait aux pauvres à respecter les horaires convenables, les programmes publics de workfare, dans lesquels le versement de prestations sociales est conditionné par l'occupation d'un emploi, et bien d'autres initiatives semblables développées aujourd'hui. Pourquoi, à partir du XVIe siècle, la bourgeoisie a-t-elle soudain conçu un tel intérêt pour la régénération morale des pauvres dont elle ne s'était pas souciée le moins du monde jusqu'alors? Ce point a toujours fait figure d'énigme historique, mais il s'explique aisément dans le contexte du Life Cycle Service. Les pauvres étaient assimilés à des adolescents récalcitrants. Or, c'était traditionnellement par le travail, plus exactement le travail rémunéré sous la supervision d'un maître, que l'on apprenait aux adolescents à devenir des adultes convenables, obéissants et autonomes. Concrètement, les puritains et autres pieux réformateurs n'avaient plus grand-chose à faire miroiter aux nécessiteux et certainement pas l'accession à l'âge adulte tel qu'on l'entendait jusqu'alors, c'est-à-dire l'affranchissement de l'obligation de travailler sous les ordres d'autrui. Alors, ils ont entrepris de remplacer cette perspective par l'aumône et la discipline, tout en remettant par là-dessus une bonne couche de théologie. Le travail, enseignait-il, est à la fois une punition et une rédemption. Il a une valeur intrinsèque en tant qu'humiliation de soi, au-delà même des richesses qu'il produit, lesquelles ne sont qu'un signe de la grâce de Dieu, dont il convient de profiter avec modération. À mon avis, les remarques de Max Weber, 1905, sur le lien entre calvinisme et origine du capitalisme, doivent être comprises dans ce sens. Beaucoup, à l'époque, considéraient comme une évidence qu'il y ait eu une certaine connexion entre le protestantisme, l'éthique du travail autodiscipliné et la croissance économique, Toney, 1924. Pourtant, très peu ont examiné la convergence de trois facteurs qui semblent largement coïncider. Le Life Cycle Service nord-européen, le protestantisme et le capitalisme naissant. Au lendemain de la révolution industrielle, les méthodistes se sont mis à exalter le travail avec une vigueur renouvelée, imitée, voire dépassée, par des bourgeois instruits qui ne se concevaient pas comme particulièrement religieux. Le plus grand défenseur de cette cause a peut-être été Thomas Carlyle, un essayiste immensément populaire qui, préoccupé par le déclin de la moralité dans l'ère de Mammon qui s'ouvrait, a proposé un évangile du travail. Selon lui, le travail n'était pas un moyen de satisfaire des besoins matériels, mais l'essence même de la vie. Dieu avait délibérément créé un monde incomplet pour offrir aux hommes la possibilité d'achever son œuvre par leur labeur. Un homme se perfectionne en travaillant. Considère combien, même quand il s'agit des plus humbles besognes, l'âme entière de l'homme s'apaise, atteint une harmonie réelle au moment même où il se met au travail. Doute, désir, tristesse, remords, indignation, désespoir, tous comme autant de chiens d'enfer assaillent l'âme du pauvre journalier aussi bien que celle de tout homme. Mais il se penche, courageux et libre, vers sa tâche. Et toutes les furies s'apaisent. Elles se retirent tout en grondant pour regagner au loin leurs antres. L'homme, à ce moment, est bien un homme. Le rayonnement béni du travail qui l'éclaire, n'est-ce pas comme un feu purificateur dans lequel tout poison vient se fondre? Tout réel travail est sacré. Dans tout réel travail, ne fût-ce qu'un réel labeur manuel, il y a quelque chose de divin. Ô mon frère, si ce n'est pas là prier, alors je le déclare, tant pis pour la prière, car c'est là la plus noble chose qu'on ait encore découverte sous le ciel de Dieu. Qui es-tu, toi qui te plains de ta vie de lutte? Ne te plains pas. Lève les yeux, frère, si tu es là. Regarde les travailleurs, tes frères, dans l'éternité de Dieu. Bande sacrée des immortels, céleste garde du corps de l'empire de l'humanité. Carlyle aboutissait à la conclusion à laquelle tant d'autres parviennent aujourd'hui. Puisque le travail est noble, alors les tâches les plus nobles ne devraient pas être rémunérées. En effet, il serait indécent de prétendre mettre un prix sur des activités dont la valeur est si absolue. Le salaire de tout noble travail, pour l'heure, est encore au ciel, ou sinon, il n'est nulle part, écrit Carlyle. À noter tout de même que, dans sa grande générosité, Carlyle admettait la nécessité d'accorder aux pauvres de justes salaires pour qu'ils puissent se procurer des moyens de subsistance. Ces arguments ont rencontré un formidable écho au sein de la bourgeoisie. Sans surprise, ils ont beaucoup moins impressionné les mouvements ouvriers qui bourgeonnaient en Europe au même moment. La plupart des travailleurs impliqués dans le ludisme, le chartisme, le socialisme ricardien et toutes ces tendances qui portaient en germe le radicalisme anglais auraient probablement été d'accord avec l'idée que le travail comportait une dimension divine. Cependant, pour eux, celle-ci ne tenait pas aux effets du travail sur l'âme et le corps, en tant qu'ouvriers, ils le savaient mieux que quiconque, mais au fait qu'ils créaient des richesses. En réalité, tout ce qui rendait riches et puissants, les riches et les puissants, était le fruit des efforts accomplis par les pauvres. Adam Smith et David Ricardo, les fondateurs de la science économique britannique, ne tardèrent pas à embrasser le concept de valeur-travail, à l'instar de nombreux industriels émergents qui y voyaient le moyen de se démarquer des propriétaires terriens, simples consommateurs oisifs à leurs yeux. Mais presque instantanément, cette théorie a été adoptée aussi par les socialistes et les leaders syndicaux, puis retournée contre les industriels. Bientôt, les économistes se sont mis en quête d'explications alternatives en se plaçant ouvertement sur le terrain politique. Dès 1832, c'est-à-dire 35 ans avant la parution du Capital de Marx, on pouvait lire des avertissements de ce type. Que le travail soit la seule source de richesse, voilà une doctrine qui semble aussi dangereuse que fausse, puisqu'elle fournit malheureusement un levier à ceux qui cherchent à représenter toute propriété comme appartenant aux classes laborieuses et la part reçue par d'autres comme du vol ou une fraude à l'égard des ouvriers. Il s'agit d'un extrait de John Cazenove. À vrai dire, dans les années 1830, de telles déclarations étaient des lieux communs. Il ne faut pas oublier que la théorie de la valeur-travail faisait quasiment l'unanimité dans les générations post-révolution industrielle, avant même la diffusion des œuvres de Marx, qui lui insufflèrent un regain d'énergie et en proposèrent une formulation plus élaborée. Elle était particulièrement prégnante dans les colonies anglaises du Nouveau Monde. Les mécaniciens et commerçants, qui deviendraient les fantassins de la guerre d'indépendance américaine, estimaient que la couronne britannique venait piller les richesses qu'ils avaient produites. Après la Révolution, beaucoup retournèrent cette rhétorique contre les aspirants capitalistes. Pour citer un historien, leur conception de la bonne société reposait sur un roc inébranlable, la conviction que toute richesse était créée par le travail. Au point que l'adjectif « capitaliste » à cette époque était le plus souvent insultant. Lors de son premier discours annuel devant le Congrès en 1861, le président américain Abraham Lincoln prononça des phrases qui, pour radicales qu'elles sonnent à nos oreilles modernes, ne faisaient que refléter le sens commun de l'époque. Le travail est antérieur au capital et indépendant de celui-ci. Le capital n'est que le fruit du travail et il n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait pas existé avant lui. Le travail est supérieur au capital et mérite de loin la plus haute considération. Cependant, poursuivait Lincoln, un élément faisait défaut aux États-Unis d'Amérique quand on les comparait à l'Europe, un élément qui, en réalité, était à la base de leur système démocratique, la présence d'une population permanente d'ouvriers salariés. Nul n'est obligé de rester enfermé durant toute son existence dans la condition d'ouvrier embauché au jour le jour. Partout à travers le pays, on rencontre aujourd'hui quantité d'Américains indépendants qui, pendant une partie de leur vie, ont travaillé sous contrat pour d'autres. un jeune homme démarre dans le monde, prudent et désargenté, se fait employer un temps comme salarié, met de côté un petit pécule qui lui permet d'acquérir des outils ou une terre à lui, puis commence à travailler pour son propre compte avant d'embaucher à son tour un débutant pour l'aider. Autrement dit, même s'il ne l'exprimait pas exactement en ces termes, Lincoln soutenait que la rapide expansion économique et territoriale de l'Amérique permettait d'y laisser subsister une organisation proche du système médiéval, dans laquelle chacun travaillait d'abord pour d'autres, puis pouvait utiliser les bénéfices ainsi accumulés pour ouvrir un atelier ou acheter une ferme, sur des terres confisquées à leurs habitants indigènes, avant de devenir lui-même un capitaliste, recrutant des ouvriers parmi les jeunes gens qui démarraient dans la vie. Incontestablement, dans l'Amérique d'avant la guerre civile, même si Lincoln était originaire de l'Illinois, situé non loin de la frontière, cette situation était un idéal. Dans les villes anciennes de la côte Est, des mouvements ouvriers s'opposaient déjà à ce type de vision. En 1845, Mike Walsh, membre de l'Assemblée de l'État de New York, tenait des propos explicitement anticapitalistes. « Qu'est-ce que le capital ? Sinon ce pouvoir vorace que l'on extorque du travail par l'escroquerie, l'avarice et la ruse, aujourd'hui et de tout temps ?» Ce qui est intéressant dans les remarques de Lincoln, c'est qu'il pensait devoir inscrire le débat dans le cadre général de la théorie de la valeur-travail. Tout le monde alors en faisait autant. Et ce fut le cas jusqu'à la fin du siècle, au moins. C'était même vrai aussi plus à l'ouest, le long de la frontière, où l'on aurait pu penser que ces tensions de classe à l'européenne étaient moins présentes. En 1880, on pouvait lire sous la plume d'un protestant missionnaire qui avait voyagé pendant plusieurs années dans cette zone « Du Colorado à la côte Pacifique, vous serez bien en peine de trouver un paysan ou un mineur qui n'ait pas la bouche emplie de l'argot ouvrier de Dennis Kearney, des blasphèmes paillards du pamphlétaire athée Robert Ingersoll ou des théories socialistes de Karl Marx. » Dennis Kearney, leader ouvrier californien, a notamment marqué les mémoires pour ses prises de position virulentes contre l'immigration chinoise. Robert Ingersoll est l'auteur de célèbres réfutations de la Bible. J'ai vu pas mal de westerns dans ma vie, mais il faut croire que tous ont oublié de mentionner ce détail, à l'exception notable du trésor de la Sierra Madre, qui s'ouvre sur une scène dans laquelle John Huston, interprétant un personnage de mineur, explique la théorie de la valeur-travail à Humphrey Bogart.